Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Les déviations est le média de celles et ceux qui ont changé de vie. Les déviations revendiquent une indépendance totale. Mais pour continuer à exister et diffuser des témoignages, des conseils d'experts, organiser des rencontres, nous avons choisi de soumettre nos podcasts à une ou deux plages publicitaires de 30 secondes. C'est la condition pour que vous puissiez écouter ce podcast gratuitement et nous sommes sûrs que vous comprenez. L'épisode d'aujourd'hui est un entretien avec Inès Weber, psychologue, psychothérapeute et cofondatrice du Centre de culture spirituelle Sésame.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Inès Weber. Vous êtes psychologue, vous recevez en cabinet en Avignon et à Paris, mais vous avez aussi monté avec le philosophe Abdennour Bidar le centre Sésame à Paris. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Oui, alors centre de culture spirituelle, ça fait un peu pompeux quand même, hein. On en a conscience. C'est peut-être beaucoup plus modeste que ça. En réalité, donc, on a ouvert en 2015 un lieu, on va dire même un espace-temps, c'est des rendez-vous réguliers à Paris à l'origine. Maintenant, on est en train de proposer de s'étendre un petit peu en Provence. Et donc, c'est l'idée de permettre à tous les chercheurs, hein, toutes les personnes qui se posent des grandes questions existentielles sur le sens en général, de pouvoir se retrouver et bénéficier d'un accès à des ressources culturelles et des ressources humaines, c'est-à-dire des rencontres et du partage, sans avoir à rentrer dans des logiques d'appartenance. Parce que nous, on l'explicite bien comme ça, on n'est pas une voie, on ne propose pas de méthode, on n'est affilié à aucune tradition en particulier, on est juste un lieu où le questionnement peut se poser de manière libre et ouverte, avec tous, c'est-à-dire avec toutes les visions du monde et les sensibilités différentes, qu'on soit agnostique, athée, croyant, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il manquait de tels lieux, on trouve dans nos sociétés actuelles, parce que dès qu'on veut être un peu libre dans la construction de notre propre chemin de sens, on se trouve souvent en proie à l'isolement ou à la solitude. Donc on s'est dit que c'était quand même important que dans nos sociétés actuelles, qui est aussi en grande partie un peu des déserts de sens, hein, et on est dans une crise à cet égard aussi, qu'on puisse se créer ces petits points de ravitaillement, de ressourcement, sous cette forme.
Vous parlez de crise de sens de l'époque, à travers quels éléments vous pouvez observer ça ?
Alors, le mot sens, ça signifie deux choses, hein, crise de signification et crise de direction, avec un manque de cap. Le philosophe Abdennour Bidar dit souvent qu'il n'y a plus de pilote dans la civilisation, hein, c'est-à-dire on sent bien qu'on est dans une époque où il n'y a plus aucune grande proposition qui fait l'unanimité. Les grands idéaux politiques du XXe siècle sont tombés un peu en désuétude. Hein. Et donc, qu'est-ce qui soulève nos enthousiasmes ? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous battre, de nous engager collectivement, qui nous donne des visions comme ça d'un avenir meilleur, plus radieux ? Il n'y a plus grand-chose en ce moment. Hein, voilà. Donc, ça se manifeste par une forme de désespérance, de désenchantement, hein, c'est Marcel Gauchet qui parlait du désenchantement du monde, voilà, parce qu'on est une génération ou des générations là actuellement qui ont grandi comme ça dans toutes les ruines des grandes propositions de sens religieuses puis politiques des siècles précédents, voilà.
Vous mettez la spiritualité au centre de votre approche de l'humain. Est-ce que dans votre lecture des philosophes ou des religions, vous avez pu avoir des pistes, lire des pistes sur ces volonté de changement de vie ?
Alors déjà, ce mot spiritualité mérite qu'on s'arrête un petit peu dessus, parce qu'aujourd'hui, il met beaucoup de personnes mal à l'aise, hein, notamment parce qu'il est assimilé quasiment exclusivement à la religion. Hein. Bon. Moi, quand je parle de spirituel, c'est un mot qui me tient quand même à cœur. Je pourrais éviter de le prononcer, mais je le fais de manière choisie. Hein. Je considère qu'il y a du spirituel à partir du moment où il y a une démarche de prendre soin de l'être, une démarche aussi de recherche du sens. On n'est pas obligé de se référer aux héritages des traditions de sagesse ou aux héritages religieux pour avoir une forme de ce que j'appelle moi une démarche spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les traditions de sagesse sur le thème du changement ? Vaste question. Bon, énormément de choses, parce que en réalité, les traditions de sagesse offrent un certain nombre d'enseignements pour accompagner l'être humain dans sa recherche de construction de vie, et donc dans la capacité d'accueillir le mouvement de la vie en lui, de lui donner des expressions le plus conformes à sa nature possible. Bon, donc ce n'est qu'une histoire de changement, quoi, hein, de savoir évoluer, de savoir être vraiment vivant, en réalité. Ça, c'est l'expression que j'avais employée dans mon article, là, dans Management. Être vivant, c'est par définition être changeant. Donc, à partir du moment où on est dans une démarche de chercher à qu'est-ce que la vie, comment vivre vraiment, exister pleinement, bon, bah, la question du changement, elle est centrale, elle est incontournable.
Vous dites que les religions, que la plupart des textes philosophiques viennent accueillir ce mouvement de vie, ce changement, mais il y en a beaucoup aussi qui traduisent ce désir de changement par une incapacité à se satisfaire des choses telles qu'elles sont, que ce soit notre corps, nos conditions de vie, le contexte dans lequel on vit. Donc, dans quelle mesure le désir de changement, il est véritablement le signe de la vie et donc de la métamorphose?
Alors, tout dépend de l'usage, comme toujours. C'est-à-dire, que ce soit les religions, les traditions de sagesse, offrent des outils. Que ce soit des inspirations, des propositions, des indications, etc. Comme toujours, je peux utiliser un outil dans un sens comme dans un sens contraire à l'esprit originel de l'outil. On constate qu'il y a beaucoup de rapports, d'usage de la religion qui aboutit à l'inverse, c'est-à-dire à se rigidifier dans des formes, bloquer dans des pratiques, etc., qui nous empêchent d'évoluer vers nous-mêmes, etc. Bon. Donc tout dépend de l'usage. Je pourrais pas dire que c'est la religion qui crée ça en soi, mais ça c'est à chacun, de cette façon, de faire son examen de conscience à cet égard.
Quels sont les premiers conseils que vous donneriez à quelqu'un qui n'est pas satisfait de l'état actuel des choses, qui veut se mettre en capacité de changer, de ne plus subir, de reprendre le dessus sur cette vie qui ne lui convient plus?
Vous semblez indiquer que le besoin de changement, vous le liez beaucoup à des situations qui ne nous conviennent pas. Bon. Alors, je pense que ça, c'est un type de changement, c'est par réaction ou besoin de réajustement, ça c'est important. Mais il peut y avoir tout à fait un besoin de changement heureux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il soit non pas lié à quelque chose qui a échoué quelque part, vous voyez, en réaction à quelque chose qui a échoué, mais au contraire quelque chose qui a était tout à fait bénéfique. Par exemple, il y a un besoin tout à fait de changement tout à fait naturel à la fin d'un processus de croissance. C'est-à-dire que si je peux tout à fait avoir au sein d'une relation ou d'une situation, d'un travail, etc., eh bien, réussir à avancer, à me développer, à gagner en conscience, en capacité, en confiance, etc., et puis que ça aboutisse naturellement vers l'après, signe d'un échec. Souvent, ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile pour les personnes parce que ça va être perçu comme ça dans leur entourage. Si t'as besoin de changer, c'est que c'est qu'en fait ton choix d'avant était un échec. Donc fais attention, tu sais mal t'acheminer dans la vie. Bon, voilà. Maintenant, je peux répondre à votre question. Comment ? Je dirais de pas se précipiter sur le comment et de se prendre le temps de se poser la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi, c'est-à-dire la signification, ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que je cherche fondamentalement ? Qu'est-ce qui se passe pour moi dans cet inconfort, etc. Qu'est-ce qui révèle ? Bon, pour pas le reproduire, évidemment. Et le pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire vers quoi, en fait, vers quoi je veux changer. Donc ça pose le défi qui me semble vraiment important, qu'un changement représente un véritable progrès. Parce que je peux changer et que ce soit juste un changement de décor, vous voyez. C'est-à-dire, en fait, je reste dans le même état ou dans les mêmes conditions. Juste, je vais... ça va plus être les mêmes collègues, mais ça va toujours être la même donne, d'une certaine façon, vous voyez, où je change de lieu de vie, mais en réalité, je suis toujours dans les mêmes tracas autour de mon mode de vie, etc. Donc, attention aux faux changements et aux faux progrès, c'est-à-dire ce qui finalement échoue à améliorer véritablement notre condition. Donc, ça mérite, il me semble, vraiment de prendre ce temps de la réflexion. C'est d'autant plus important, il me semble, que, attention, je pense que toute l'économie et la publicité, etc., a bien compris qu'il est important pour son succès de comprendre nos aspirations essentielles et donc a tendance à capter ça. Hein. Je vous donne un exemple très précis. J'ai eu récemment, ça m'a beaucoup marqué, un homme qui, après une rupture, voulait aller de l'avant. Et donc son premier réflexe, c'était « je veux acheter une voiture ». Il me dit juste d'abord qu'il veut acheter une voiture. Je dis « mais pourquoi vous voulez acheter une voiture ?»« Bah pour aller de l'avant ». Bah oui, ça c'est la, on va dire, ce que le marketing vend. Tu veux aller de l'avant dans ta vie, tu veux avoir plus de liberté. Vous voyez toujours ces pubs des voitures au milieu d'un grand paysage. Ça va être l'aventure, ça va être le grand air libre, etc. Donc lui, il veut ça. Donc il veut la voiture parce qu'il a assimilé ce que la publicité, la confusion en fait qui est suscitée par la publicité, que bah, c'est la voiture qui va donner ça. Mais en réalité, la voiture, c'est quoi? C'est un crédit, simplement, qui allait complètement au contraire restreindre son champ de possibilités et d'émancipation par rapport à sa condition actuelle, parce qu'il avait besoin, en effet, de nouveautés dans sa vie, etc. Mais s'il a un crédit supplémentaire, d'une certaine façon, ça le conditionne et ça le restreint directement, quoi. Bon, donc on a vachement travaillé là-dessus, c'était pas grand-chose. Mais non, je veux dire, attention, avant d'acheter la voiture, peut-être que ça passera vraiment par la voiture, ça on peut pas savoir. On va essayer de comprendre d'abord vraiment ce que pour vous ça représente la voiture, vous voyez. Et on va voir si c'est vraiment la voiture qui va vous permettre ça ou autre chose. Et on a besoin de se libérer de ça, il faut libérer nos représentations et notre conscience de ce qui est de l'ordre de l'essentiel et ce qui est de l'ordre du matériel et à quel point le matériel, parfois, il peut participer à nous amener, nous acheminer vers l'essentiel, mais dans beaucoup de cas... Pas du tout, au contraire. Hein, il nous contrarie dans cette possibilité-là.
Tu parlais de trouver la connaissance profonde de soi. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait?
Alors, on cherche. Alors d'abord, il y a un facteur socio-culturel, évidemment, mais je pense qu'aussi, ça c'est important de le rappeler, c'est notre condition aussi ontologique. Hein. C'est-à-dire que, ça c'est par exemple Platon qui le propose dans le mythe de la réminiscence. C'est un mythe, hein, donc il explique par une histoire, par une image, quelque chose qui nous concerne intimement. On est né pratiquement avec la connaissance de tout, avec la sagesse universelle, on pourrait dire, mais on a oublié. Voilà. L'oubli arrive et fait que c'est comme si, ensuite, on est dans un état d'ignorance totale. Et donc, tout le parcours de la vie de l'être humain va être cette longue quête de retrouver ce qu'il a perdu originellement. Bon. Et ça comprend la connaissance de soi. La connaissance de soi est presque la connaissance de tout, de toute chose. Donc, même si on est plus ou moins aidé socioculturellement, déjà à prendre conscience qu'il y a quelque chose à aller chercher et qui a été oublié, et puis après pour pouvoir vraiment réaliser ce chemin, il y a quand même cette donnée de départ qui est presque relative à la condition humaine, quoi. Donc pour faire cette recherche, ça c'est ce dont nous parle très bien les traditions de sagesse à travers les mythes, les contes, les légendes, etc. C'est toujours ce héros quitte la terre natale, donc il quitte le connu, c'est-à-dire ses représentations premières, ce qu'il pense être le vrai, la réalité, ce qu'il pense être son identité, etc., pour aller chercher quelque chose dont il ignore ce que c'est, mais l'appel est trop fort, hein. Le Graal, Ithaque, tout ce que symbolisent ces éléments-là, et qui donc va devoir passer par un long voyage et des étapes successives qui vont toujours être l'occasion en fait d'aller à la conquête de parties de soi-même insoupçonnées, de ressources inexplorées, inconnues encore de lui, etc. Bon. Donc, dans le cadre d'une thérapie, mais dans le cadre de la vie en général, pareil, tout notre parcours de vie, on peut en avoir une grille de lecture très littérale, considérer qu'on est juste en train de changer de travail, et puis de lieu de vie, et puis que finalement, les choses sont très triviales comme ça. Hein, bon. Ou on peut avoir, et ça c'est beaucoup ma vision des choses, je pense que derrière cette lecture littérale, il y a toujours un sens plus mythologique, on est tous des héros mythologiques, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus profond qui se cherche, qui est en train de se construire. Et ce sens supérieur, de cette façon, ou plus profond, on peut en prendre conscience si on se donne le temps déjà et si on y porte une attention particulière. Voilà. Moi, c'est tout mon travail avec les personnes que j'accompagne, ça va être de se donner l'occasion de percevoir ce qui se passe vraiment, fondamentalement, dans notre vie. Est-ce que c'est juste, par exemple, si c'est l'occasion d'un changement, justement, un changement. Est-ce que je veux juste changer de travail parce que c'est plus près de chez moi, c'est plus pratique, et puis en fait juste j'en ai un peu marre, j'ai besoin juste de nouveautés. Ou en réalité, en fait, ce que je suis en train de chercher, c'est à progresser dans mon être et que, alors que j'étais pendant longtemps dans une forme qui pouvait plus ou moins me convenir, mais en tout cas qui arrive aujourd'hui un petit peu à sa fin, quoi, hein, une activité ou un poste ou une relation, eh bien, il y a quelque chose, il y a un désir d'en sortir pour s'ouvrir à un champ d'expression plus vaste. C'est pas tout à fait la même chose. Résultat, de prendre conscience de ça, ça fait qu'on va pas y accorder la même importance. On se dit pas juste, bon, c'est une petite lubie ou une cerise sur le gâteau, quoi. On se rend compte que ça redonne une dignité et donc aussi une importance à cette recherche qui, résultat, peut passer de manière beaucoup plus prioritaire dans notre vie. Voilà.
Mais ça, finalement, c'est le travail de tous les psychologues, de tous les psychothérapeutes, justement, de voir la vérité au maximum déshabillée de tout son vernis social et de tous ses mensonges.
Oui, je l'espère, bien sûr, bien sûr. À ce titre, je ne considère pas avoir le monopole ou avoir découvert, l'Amérique. Hein. Après, ce qui distingue, je pense, les thérapeutes, ça c'est vraiment important, c'est ça que je préconise dans le choix du thérapeute, c'est les visions du monde et d'être humain. On n'a pas du tout les mêmes visions selon les approches. Hein. Notamment, une grande différence, si vous voulez, c'est par exemple la vision déterministe de l'être humain par rapport à une vision que moi que j'appelle plus spirituelle, mais on peut l'appeler autrement si on préfère. C'est-à-dire la vision déterministe va considérer qu'on est vraiment le fruit de tous nos conditionnements. C'est-à-dire que ce que je suis, c'est déterminé entièrement par mon milieu, mon contexte socioculturel, les faits de ma vie, ma biographie, quoi, hein, m'ont impacté, etc. Ma vision des choses, elle est tout à fait différente. Je pense qu'il y a une part conditionnée, en effet. On est en partie pétrie par notre environnement. Mais qu'il y a une partie de nous qui est inconditionnée, qui échappe à tout ça, qui est notre essence. C'est bien parce qu'elle existe qu'on est capable de liberté. Sinon, en réalité, on est juste une matière qui est pétrie de l'extérieur. Voilà. Parce que ça touche, c'est là où on touche à une forme de spiritualité. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a quelque chose en l'homme qui dépasse son être sensible, son corps, sa biographie, etc. Alors c'est quoi ? Donc c'est là où on commence à rentrer dans le champ du spirituel.
Vous dites souvent que l'accès à cette intériorité, l'accès à cette sagesse, il est souvent bloqué. Et donc pour aller trouver les solutions et pour se reconnecter avec ses aspirations existentielles, comment on dépasse le blocage ?
Alors le blocage, il peut être produit par des peurs, d'abord des peurs d'aller chercher. À cet égard, je trouve que l'image de l'inconscient freudien, qui est celle qui domine encore dans nos imaginaires, elle est un peu à double tranchant, parce qu'à la fois, il reconnaît en nous une partie de nous qui échappe à notre conscience ordinaire, hein, ce qui est important, donc il y a quelque chose quand même à aller chercher. Mais en même temps, on s'affigure en tout cas comme une boîte de Pandore, c'est-à-dire la boîte de tous les maux. Là, en fait, où on a mis tout ce qui nous a gênés, tout ce avec quoi on n'est pas à l'aise, tout ce qui n'est pas très très joli pour nous dans notre vie, etc. Bon, tout d'un coup, on a un peu moins envie d'aller la chercher. À l'inverse, on trouve dans la culture spirituelle tout à fait une autre image de ce qu'il y a en nous. C'est pour ça que moi j'emploie beaucoup plus le mot de sagesse, c'est-à-dire qu'il y a une source de connaissance qui apporte des éclairages, qui est lumineuse à cet égard, et qui est indispensable pour conduire son existence à chacun, voilà, en nous. Tout d'un coup, on a un tout petit peu plus envie de se relever les manches et d'aller creuser, quoi. Hein. Bon. Donc déjà, ça dépend aussi un peu de comment on se représente notre intériorité. Est-ce que déjà on considère qu'il y a quelque chose dans l'intériorité ? Est-ce qu'on considère qu'il n'y a rien ? Est-ce qu'on considère quelque chose qui est précieux, qui est désirable, quelque chose qui est gênant, qui est perturbant, etc. Bon. Ensuite, pour aller le chercher, alors d'abord il s'agit pour moi de prêter attention. Souvent je prends l'image du petit poussé, vous voyez, qui figure ça. Hein. Il va s'aventurer dans la grande forêt de l'inconnu. Il craint de se perdre en route, il ne sait pas ce qu'il y a. Et puis c'est effrayant, c'est un peu anxiogène, l'environnement de la forêt, etc. Bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre des petits bouts de pain, puis des petits cailloux, pour ne pas se perdre en chemin. Qu'est-ce que ça symbolise, ça ? Ça symbolise des repères. Les petits bouts de pain, c'est des repères qui sont pas fiables, parce qu'ils vont se faire picorer par les oiseaux, donc en fait, qui vont me perdre en route. Donc par exemple, c'est la poursuite des plaisirs. D'un plaisir à un plaisir, bah, peut-être que je perds mon chemin, je m'achemine nulle part. Et il y a les petits cailloux, c'est des repères fiables qui lui permettent vraiment de s'orienter vers cet inconnu où il sent qu'il y a quelque chose d'important pour lui à trouver. Donc ça, on peut tous chercher, nous, à, même si je ne sais pas exactement ce que j'ai à trouver, je ne sais pas vers où je vais aller, etc. Qu'est-ce qui a été des petits cailloux ? Est-ce qu'il y a des petits bouts de pain ? C'est-à-dire, est-ce que je sais qu'il y a des choses qui m'ont induit en erreur ? Et puis, au contraire, des choses où je sens que ça, c'est des repères fiables. Par exemple, des moments, j'ouvre le grand livre de ma vie et je l'interroge, quoi, comme un grimoire. Vous voyez, bon, je l'interroge et je me dis, tiens, à quel moment je sens que c'était ça, que j'y étais, que là, j'étais sur la bonne voie, ou que je me sentais vraiment être, ou vraiment exister, ou plus pleinement, ou que je me sentais que j'étais un peu un sommet dans ma qualité de vie ou de présence, etc. Bon, ben on a tous quelque chose à se mettre sous la dent, justement. Alors souvent, c'est dans des circonstances très privilégiées, c'est-à-dire un voyage ou une période de vie où on était particulièrement libre ou des choses comme ça, ou dans une relation en particulier, etc. Ben, il s'agit de prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qui s'est produit là ? Est-ce que c'était un hasard, une chance, ou c'est quelque chose qui peut m'indiquer les conditions dans lesquelles je peux donner le meilleur de moi-même, me sentir vraiment sur la bonne voie, etc. Hein. Et comment donc je m'instruis de ma propre vie, je m'enseigne par mon expérience. C'est là aussi pour moi où on sort juste de la croyance. Parce que tout ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, c'est théorique. Donc on y croit, on n'y croit pas. Bah, après, c'est que notre vie qui nous renseigne. Ah tiens, ça me parle ou ça ne me parle pas, quoi. Hein. Je sens que de considérer les choses comme ça me fait avancer parce que ça agit, ça produit un effet, ou si ça reste lettre morte. Hein. Ça, c'est à chacun aussi de voir, de s'en saisir ou non. C'est important pour moi d'accéder à ces propositions pour pouvoir après choisir en conscience et en toute liberté. Mais si on n'accepte pas du tout à ces propositions et qu'on les censure en amont, en tout cas dans nos représentations, en se disant que c'est forcément obsolète, magique, infantile, etc., bon, bah, peut-être qu'on se prive, et ça, c'est ce que je pense, bien de ressources immenses. C'est dommage, hein, et c'est peut-être même voir une amputation, hein, de se priver de tout ça. Mais ce n'est pas le seul chemin, évidemment, c'est à chacun de choisir.
J'ai une question assez pragmatique, mais comment est-ce qu'on se met en capacité de changer, de donner le plus d'élasticité possible à son cerveau, à sa largeur de vision ? Est-ce qu'il y a des techniques ?
Alors, d'autres thérapeutes qui vous diront que oui, moi, je ne parlerai pas vraiment de techniques. Je pense qu'il y a une disposition, hein, en effet, qui peut se travailler. D'ailleurs, ça, c'est vraiment l'objet de la thérapie. Parce qu'en effet, on va recevoir des personnes qui ne sont pas au même stade de maturité vis-à-vis de ce désir et cette capacité au changement. Hein, tout à fait. Donc, parfois, c'est très mûr. Et presque, il n'y a qu'à récolter, vous voyez, qu'à se baisser et à cueillir, quoi. Hein. Parfois, pas du tout. Hein. Parfois, ça coince depuis longtemps. Même si la conscience est là, c'est-à-dire on sait ce qu'il faut changer, on a même parfois une idée même très précise de ce qu'il nous faudrait, mais il y a quelque chose qui empêche l'action. Alors, mais ça, pareil, il n'y a pas de recette toute faite. Moi, je suis contre les recettes toutes faites. Il y a une investigation, c'est-à-dire où est-ce que ça coince, hein. Alors, est-ce que c'est des peurs? Est-ce que ça va être... des peurs qui sont liées au regard social ou à l'impact que ça peut avoir sur notre environnement familial, etc., etc. Bon, est-ce que ça va être lié à des représentations, des choses, c'est-à-dire c'est pas bien ou c'est immature ou c'est si j'ai envie de changement, bah c'est juste que c'est, je sais pas, c'est moi qui ai un problème, je devrais pouvoir m'adapter à cette situation, etc., etc. Vous voyez, bon. Je dirais, la seule chose presque universelle qu'on peut dire, c'est le questionnement, hein. La réflexion profonde, l'interrogation que chacun a amenée vis-à-vis de soi, de manière accompagnée ou pas, hein. Ou accompagnée, pas forcément par un thérapeute, heureusement, par des amis, par des proches, c'est-à-dire quelqu'un qui va m'aider à être dans cette dialectique, c'est-à-dire de remettre comme ça du jeu par le jeu, c'est-à-dire du J-E par le J-E-U, le jeu de la conversation, de l'échange, l'extérieur, hein, comme ça.
Est-ce qu'on peut se passer du corps ? Quand on souhaite changer de forme, est-ce que le corps finalement peut être aussi une porte d'accès vers notre intériorité et pour cette investigation intérieure ?
Alors oui, bien sûr, en tout cas, il me semble aussi qu'on rentre dans le champ du spirituel quand on sort du régime des dualités. Hein. Il ne s'agit pas d'imposer corps et esprit ou vie intérieure et la matérialité de notre corps, etc. Et que c'est à chacun aussi de trouver comment engager le corps dans ce processus, et s'il a besoin d'être engagé. Ça aussi, c'est pas évident pour tous. Il y a des personnes pour qui ça va être très central, et d'autres pas du tout. D'ailleurs, un des signes importants, c'est que déjà, le besoin de changement va s'exprimer par le corps. D'ailleurs, la langue française est intéressante aussi pour ça, je sais pas si ça vaut pour les autres langues, prendre forme, et les formes, on parle souvent des problèmes de poids, qui vont souvent être témoignés de quelque chose qui a besoin de retrouver sa bonne forme. Hein, il y a souvent quelque chose qui va s'exprimer dans le corps, en tout cas déjà une gêne ou quelque chose qui va mettre l'individu dans la nécessité de changer quelque chose, parce que déjà il veut changer physiquement, vous voyez. Mais le changement physique va passer par un changement dans le mode de vie ou dans quelque chose qui le concerne bien au-delà du physique. Hein. Et d'ailleurs aussi, on le perçoit, comment on mobilise le corps dans le changement. Vous avez peut-être dû l'avoir dans des témoignages, des déviations, etc. Quand on a une métamorphose, un changement très important, il y a un besoin impérieux que ça s'exprime aussi par un changement dans l'apparence, c'est-à-dire un besoin de correspondance entre l'extérieur et l'intérieur. Si quelque chose qui est complètement une révolution intérieure, ça va sans doute s'exprimer par un changement radical sur le plan extérieur. Tout d'un coup, on coupe les cheveux à ras, ou on change complètement style vestimentaire, etc. Alors, on peut considérer que c'est superficiel. Ben non, pas du tout. C'est un des moyens d'expression. Le corps peut tout à fait participer à témoigner de l'être et de ce qui se passe intérieurement. C'est peut-être d'ailleurs là où il est le plus fidèle à nous-mêmes. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui, dans l'attitude, dans la façon d'être, etc., va aussi être le véhicule d'un changement, d'une transformation et d'une autre façon d'être au monde.
Les crises qui nous entourent, Inès Weber, qu'elles soient économiques, sociales, écologiques, de quelle manière elles peuvent avoir un impact sur l'individu et créer des crises en chacun, individuellement et de façon parfois existentielle et forte.
Je pense qu'un point commun entre toutes les crises, c'est que c'est la manifestation d'un décalage ou même d'une coupure entre les logiques humaines actuelles et les lois de la vie, du vivant. Hein. Et ça, ça aboutit sur le plan individuel comme sur le plan macro, collectif, à la même chose, c'est-à-dire à quelque chose qui craque, qui ne peut pas tenir ensemble parce que c'est désuni en réalité. Bon. Sur le plan individuel, il y a une distinction que je trouve importante et très féconde à cet égard pour essayer de parler plus concrètement des choses, qui est proposée notamment par le philosophe Bergson, mais aussi par un thérapeute comme Gottfried Graf Durkheim, une distinction entre le moi social et le moi profond. Dire qu'il y a une partie de nous qui est mue par la volonté de s'adapter dans le monde, de s'intégrer, de faire sa part, de prendre forme, hein, dans la vie. Et puis, il y a une partie de nous, beaucoup plus profonde, notre essence, hein, qui est mue par le souhait d'être fidèle à soi-même, de pouvoir s'exprimer, de devenir ce que l'on est, d'exister dans sa singularité, etc. Si on a un contexte socio-culturel qui, d'une certaine façon, je pense que c'est le cas aujourd'hui, nous invite à nous développer et à nous engager dans le monde en adaptant le moi aux exigences sociales et dans l'oubli de notre être essentiel, eh bien, ça va provoquer un jour ou l'autre une frustration telle que, eh bien, on va avoir besoin de changer radicalement parce que même si on s'adapte au mieux, c'est-à-dire qu'on coche toutes les cases de la réussite telle qu'elle est mise en valeur par le modèle actuel, eh bien, on risque de se retrouver à avoir l'impression d'habiter une vie qui ne nous ressemble pas, en fait, par laquelle on est très peu concerné, finalement. Hein. On ne se reconnaît pas, on se sent presque étranger à soi-même, vous voyez. À l'inverse, donc souvent, d'ailleurs, les besoins de changement sont la manifestation de ça, c'est le besoin, tout d'un coup, de reconnecter son moi social, la forme que je prends dans ma vie, avec ce que je suis profondément. De retrouver un travail, des activités, des relations, etc., qui correspondent davantage à ce que je pense et que je sens être, au fond, plutôt que qui provoque ou qui creuse le décalage. Voilà. Là, il y a une dimension, en effet, sociopolitique, c'est que si on est invité dès le plus jeune âge à s'engager dans le monde et à trouver les formes à partir de la connaissance de soi profonde, eh bien, évidemment, on prévient énormément les crises individuelles. Hein. Et puis, ce qui se passe sur le plan individuel se produit aussi sur le plan collectif, hein, parce que la somme, comme ça, de mésaventures individuelles, c'est-à-dire de personnes qui se retrouvent là où elles ne sont pas, fondamentalement, eh bien, ça produit après une société un peu folle où finalement on est tous investis dans quelque chose qui est absurde, qui n'a plus de sens pour personne. Hein. Donc je pense que toutes ces crises manifestent ou témoignent de ça d'une façon ou d'une autre. Après, chacun dans son domaine, que ce soit l'écologie, l'économie, etc. Hein, voilà. C'est le produit de ce décalage.
Vous m'avez parlé de la confusion entre la vivacité et l'instabilité. Est-ce que un certain nombre de patients qui viennent vous voir sont taxés justement d'instabilité, alors que vous y voyez plutôt des pulsions de vie assez fortes?
En tout cas, c'est une très bonne question à se poser, c'est-à-dire que est-ce que, si par exemple mon besoin de changement est un peu compulsif, que c'est tous les 3 mois, est-ce que c'est que je suis instable, est-ce que c'est un signe d'immaturité, de ce que aussi il y a d'autres termes comme ça qu'on retrouve dans dans le champ lexical de la psychologie, de l'intolérance à la frustration, etc., etc. Ou est-ce que c'est signe d'une certaine vitalité ? Bon, pareil, à chacun de revenir vers soi en s'interrogeant. Bon, sachant que pareil, hein, ça n'a pas du tout la même, le changement ne va pas avoir la même place et la même signification selon les étapes de la vie. Dans la jeunesse, la prime jeunesse, ce besoin de changement, pour moi, c'est rarement l'instabilité. Ça fait partie de la construction. Dans la construction, on a besoin de tâtonner, d'errer, de se tromper, d'expérimenter, d'explorer pour aller à la découverte de ce qui nous convient fondamentalement. Bon. Or, en effet, souvent, même dès ce jeune âge, hein, l'environnement perçoit ça comme un signe d'immaturité. Bon, il est temps, ça y est, t'as 22 ans, il faut que tu rentres, hein, faut que tu rentres dans le moule, faut que tu rentres dans la vraie vie d'adulte, etc. Avec une confusion, c'est-à-dire comme si la vie d'adulte serait tout d'un coup la rigidification dans des formes, quoi, c'est-à-dire l'arrêt, la fixation. Je deviens adulte à partir du moment où je me fixe. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire à partir du moment où j'arrête d'être vivant, c'est étrange. Bon. Alors, attention, c'est subtil. C'est-à-dire qu'après, en effet, il n'y a pas quelque chose qui se fixe, mais il y a quelque chose qui se précise. Lorsqu'on a trouvé les domaines dans lesquels eh bien, on sent que notre être peut se développer, etc., les activités, le métier, les relations, eh bien, on va en effet se concentrer là-dessus. Mais pas pour arrêter de bouger, pas pour arrêter le mouvement. Hein, mais parce que tout d'un coup, le mouvement, ça ne va pas être dans l'extension, mais dans l'approfondissement.
C'était un entretien mené par Laurence Vellier et Lorraine Lott et réalisé par Sydney Clazen. Si vous aimez les déviations, n'hésitez pas à le faire savoir. Commentez, écrivez-nous, réagissez avec des cœurs, des pouces levés et des étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.